Messieurs les députés, nous sommes suffisants pour commencer notre réunion. Je souhaite la bienvenue à tous et à toutes, et particulièrement à Monsieur le vice-président de la Commission européenne, Monsieur Stéphane Séjourné, responsable du portefeuille de la prospérité de la stratégie industrielle. C'est un honneur et un grand plaisir de vous recevoir ici dans la commission des questions européennes de l'Assemblée de la République, où nous pourrons parler de thèmes très importants et des défis qui se présentent à l'Europe dans ces secteurs. Bien entendu, Monsieur le vice-président a un temps très occupé. Je demande donc à mesdames et messieurs les députés qu'ils se tiennent à leur temps de parole. Et sans plus, nous allons donc commencer. Monsieur le vice-président va faire une intervention initiale, comme c'est habituel. Et vous avez 10 minutes. Bien entendu, il y a un peu de tolérance, mais nous aimons bien recevoir comme il faut nos invités.
Fazer esta audición en portugués, por eso voy a usar la traducción para hablar mi lengua materna. Muito obrigado, Presidenta. Merci beaucoup, mesdames et messieurs les députés. Et peut-être pour commencer, vous dire que c'est un honneur et toujours un plaisir de pouvoir discuter avec les parlementaires nationaux. Je propose systématiquement maintenant aux parlementaires nationaux d'avoir une discussion lors de mes déplacements. C'est peut-être un espace de discussion politique qui n'a été souvent sous-investi par la Commission européenne, mais qui, du fait du contexte économique, politique et géopolitique, est de plus en plus pertinent, je pense, pour les commissaires européens et le vice-président, notamment à la stratégie industrielle et à la prospérité économique de l'Union européenne que je suis. Je ne vais pas parler trop longtemps, puisque évidemment les questions sont l'objet de cette audition, et je vous propose d'avoir ce dialogue franc et y compris pédagogique sur notre stratégie européenne, peut-être pour vous résumer les choses. Depuis l'attaque russe en Ukraine, depuis la guerre des tarifs américaines, depuis les tensions commerciales avec la Chine, nous avons l'obligation collective de recréer en quelque sorte un modèle économique européen qui à la fois est attaché aux valeurs européennes, c'est-à-dire d'un continent ouvert au monde, un continent qui sait commercer avec le monde, un continent qui aussi se transforme et se modernise et qui est à la pointe des technologies, et en même temps un continent qui prend en compte la fermeture des autres modèles économiques, le protectionnisme ambiant au niveau international, la faiblesse du droit international, que ce soit commercial, sur les organisations internationales de santé. Je prenais un exemple avec vos collègues français de l'Assemblée nationale, mais la France n'a pas réussi à voter une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies depuis maintenant plusieurs années, du fait que ces organisations internationales sont totalement bloquées. Et donc nous devons prendre en compte cette situation géopolitique et économique pour pouvoir rebâtir un modèle économique européen qui soit en quelque sorte et qui permette la croissance économique en Europe et qui en même temps soit moins naïf sur un certain nombre de volets commerciaux. Je vais commencer par les deux réformes d'ouverture que nous sommes en train d'opérer, notamment en ce qui concerne les accords commerciaux et le renforcement du marché intérieur européen. Sur les accords commerciaux, vous le savez, nous avons entrepris de nombreuses démarches avec nos partenaires économiques en Europe. Je pense notamment à l'Amérique latine, puisque nous devrions conclure le Mercosur d'ici quelques semaines maintenant, et la présidente de la Commission est en train de finaliser l'ensemble des points juridiques pour pouvoir conclure autour du mois de décembre cet accord commercial. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous y sont attachés après 20 ans de discussion. Nous avons également entrepris des policy reviews avec l'ensemble de nos partenaires internationaux. Je pense au Japon, au Canada, au Mexique. Et puis nous ouvrons d'autres marchés à l'international avec des accords commerciaux en Asie notamment et en Inde sur lesquels on devrait avoir des éléments très positifs dans les prochaines semaines. Nous faisons ça pour diversifier nos exportations au moment où les deux grandes puissances, Chine et États-Unis, ont quand même relativement fermé leurs marchés à l'international. Et nous souhaitons également que l'industrie européenne, que les entreprises européennes puissent, dans ce cadre-là, trouver de nouveaux marchés à conquérir également. Je pense, quand je vous évoquais l'Inde, c'est 1,4 milliard de consommateurs potentiels, avec aujourd'hui des droits de douane qui sont à peu près à 150% pour les biens et les services européens. Vous voyez le gap que nous pouvons franchir avec un accord entre nos deux continents, et c'est l'objet de du premier travail que nous effectuons avec mon collègue Maro Sefcovic et la présidente de la Commission. Le deuxième travail que nous effectuons est aussi le renforcement du marché intérieur, puisque une partie de la réponse économique à la fermeture de grandes économies à travers le monde est aussi interne à l'Europe. Et vous le savez, au Portugal, mais comme en France ou comme en Allemagne, les entreprises nationales ont souvent privilégié l'expatriation en dehors des frontières européennes et aller chercher d'autres marchés à l'international plutôt que d'investir le marché européen. Pourquoi ? Parce que nous avons 27 règles différentes que le marché européen. C'est un marché de 450 millions de consommateurs qui néanmoins est aujourd'hui entravé par de nombreuses barrières sectorielles. C'est pour cela que nous avons décidé deux principaux objectifs. Le premier, c'est d'identifier les 10 plus grosses barrières économiques du marché intérieur à la Commission européenne. Nous avons appelé ça les Terrible 10 pour pouvoir les identifier. Ces 10 barrières ont des conséquences économiques importantes pour l'Union européenne, mais sont surtout des perspectives de croissance économique pour les entreprises européennes et notamment pour les entreprises qui viennent de pays dont le marché domestique n'est pas aussi important que la France ou l'Allemagne, par exemple. Je pense notamment au marché portugais. Ces 10 barrières, c'est un travail de tous les jours puisque c'est également votre travail et c'est une responsabilité partagée que nous avons entre les parlements nationaux et la Commission européenne pour pouvoir modifier la réglementation nationale et supprimer des barrières dans les marchés nationaux. C'est pour ça que j'ai entamé une réflexion pays par pays, État membre par État membre, et j'enverrai dans les prochaines semaines et les prochains mois des recommandations très précises par pays pour retirer de la législation nationale et construire en quelque sorte le marché intérieur. C'est un travail des ministres et des parlements nationaux, mais il me semblait aussi important que nous puissions avoir cette discussion entre nous. Le deuxième travail que nous effectuons sur le marché intérieur, c'est notre capacité à construire des marchés qui aujourd'hui n'existent pas. Je pense au marché des télécoms, je pense au marché de l'électricité, on en parlera probablement avec une compétence qui est aujourd'hui 100% nationale, mais un marché qui est 100% européen. C'est le paradoxe de ce marché. Et puis, y compris faciliter les échanges de biens et de personnes à travers un certain nombre de marchés. Les télécoms en sont un, et nous aurons également comme gros programme de travail le marché des capitaux, qui doit permettre aux capitaux de circuler beaucoup plus facilement en Europe. Responsabilité de la Commission européenne à présenter des textes législatifs au Parlement européen et aux États membres à partir du mois de décembre. Notre agenda est donc très restreint et nous avons accéléré l'union des marchés de capitaux, l'énergie et les télécoms dans ce cadre-là. Et un travail partagé avec les parlements nationaux et les gouvernements pour casser les barrières nationales et donc de la réglementation nationale entre nous. Ça, c'est, j'ai envie de dire, le minimum que nous devons faire dans le cadre géopolitique et commercial que nous connaissons. De l'autre côté, pour être totalement honnête avec nous, il nous faut également construire les éléments de protection du marché intérieur. Vous le savez, depuis maintenant un certain nombre d'années, le marché européen est probablement un des marchés les plus ouverts au monde, ce qui nous crée des énormes problématiques de concurrence déloyale, notamment avec des produits qui viennent sur le marché européen, qui ne sont pas produits dans les mêmes conditions que normatives et réglementaires que l'Union européenne et que nos entreprises dans l'Union européenne. C'est pour ça que sur la table, nous mettons une proposition de réforme des douanes où nous proposons de créer une agence des douanes, un fichier centralisé des douanes qui nous permet également à la Commission européenne de savoir ce qui rentre et ce qui sort du marché européen. Plus de contrôles, une uniformisation des contrôles, la capacité de faire des contrôles flash également dans les ports et dans les aéroports. Je vais vous donner un exemple, mais vu que nous sommes qu'entre nous, il ne sortira pas d'ici. Entre un port portugais et un port dans le nord de l'Europe que je ne citerai pas, les contrôles sont très différents. Et donc vous avez un produit pour 2000 qui sont rejetés d'un port portugais après des contrôles douaniers, et un produit sur 2 millions qui sont rejetés pour un port que je ne citerai pas dans le nord de l'Europe. Ça vous démontre que soit il y a beaucoup de produits défectueux qui arrivent au Portugal, soit il n'y a pas de contrôle dans le port du Nord, et je privilégie l'option B dans ce cadre-là. Tout ça pour vous dire que le travail est énorme d'harmonisation de nos contrôles et que nous devons, y compris pour une question d'équité commerciale entre nous, pouvoir travailler sur ce volet-là. Le dernier volet que je voudrais vous évoquer avant de répondre à vos questions, c'est évidemment notre réforme notre agenda de compétitivité européenne, puisque tout ça nécessite également d'avoir un agenda de compétitivité interne à l'Union européenne. La Commission a proposé déjà un certain nombre de propositions de simplification administrative et bureaucratique depuis le début de ce mandat. Nous sommes à 6 omnibus de simplification sur 6 secteurs différents envoyés au Parlement et à la Commission, et aux États membres. Dans ce cadre-là, nous allons continuer notre effort de simplification des règles de procédure, de la bureaucratie. Mais nous souhaitons aussi garder le cap d'une stratégie de décarbonation de l'économie. D'abord parce que c'est une stratégie économique en elle-même. Réduire nos dépendances sur le fossile, c'est aussi réduire notre balance commerciale qui est négative sur ce volet-là. Nous dépensons plus de 400 milliards d'euros d'achats de carburant fossile par an dans l'Union européenne. C'est 400 milliards d'euros qui pourraient être utilisés pour d'autres choses, d'autres politiques publiques en Europe. Et donc notre stratégie de décarbonation est également une stratégie économique dans ce cadre-là. Nous souhaitons la poursuivre tout en donnant des flexibilités du fait du contexte économique que nous connaissons. Ces flexibilités, on les connaît, on en a déjà fait et on continuera à les faire. Je pense notamment aux amendes sur les voitures et sur les constructeurs automobiles qui devaient être appliquées en 2025, que nous avons décidé de supprimer au vu du contexte géopolitique et économique. Je pense aussi aux standards de CO2, où nous travaillons également sur des technologies qui pourraient être autorisées autour de la date de 2035 pour éviter un choc trop violent de la voiture électrique au moment du passage de l'obligation européenne à la voiture toute électrique. Pour ça que le maître mot aujourd'hui est plutôt au pragmatisme, à une espèce d'équilibre entre ouverture et protection. Mais je suis évidemment heureux et je serai très heureux de vous entendre sur l'ensemble de vos questions et de vos remarques par rapport à l'agenda de la Commission. Dernier point, Madame la Présidente, nous aurons deux chantiers importants. Le premier, c'est les matières premières critiques européennes qui sont devenues le nouveau pétrole et un conflit énorme puisque nous sommes dépendants à 90-100% des importations chinoises sur à peu près toutes les matières premières critiques et nous avons des gros problèmes d'approvisionnement en Europe et donc il faudra accélérer notre diversification et la production de matières premières critiques en Europe. Et deuxième grand chantier, Madame la Présidente, c'est une loi d'accélération industrielle que nous proposerons dès le mois de décembre qui doit permettre de simplifier le permitting, de simplifier les procédures, mais également d'introduire dans le droit européen de la préférence européenne et du contenu local dans la révision des marchés publics et dans un certain nombre de secteurs privés. Voilà, je m'arrête là puisque je pourrais être très long, mais je suis ravi d'échanger avec vous aujourd'hui et ravi d'avoir vos interrogations et vos questions. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Muito obrigado, Sr. Vice.
Merci, Monsieur le Vice-président, de votre intervention très claire, très complète et qui nous a ouvert beaucoup de perspectives pour, mesdames et messieurs les députés, puissent poser des questions et faire des suggestions à Monsieur le Vice-président. Je ferai juste un petit commentaire. Quant à la diversification des sources énergétiques, c'est une vieille question. Je faisais partie de la commission de l'environnement au Parlement européen et cette question était récurrente et toujours urgente. Et effectivement, l'avance a été très lente. Et maintenant, nous sommes dans une situation d'urgence. Mais enfin, disons que c'est un commentaire personnel. Nous allons maintenant écouter les représentants des groupes parlementaires. Je voudrais vous dire que cette réunion est transmise en direct sur le canal Parlement. Et donc, il faut ne pas oublier ce fait. Et donc, au nom du groupe parlementaire du PSD, Monsieur le député Paul Munich a la parole. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Je souhaite la bienvenue à Monsieur le vice-président de la Commission européenne, Stéphane Séjourné. Bienvenue à notre Parlement. Nous pensons que Monsieur le vice-président a l'un des portefeuilles les plus importants pour notre avenir collectif de projets européens. Effectivement, nous avons entendu parler de la réindustrialisation de l'Europe depuis un certain temps, mais aujourd'hui c'est extrêmement urgent et notre survie en tant que projet européen dépend en grande partie de cela. Je commencerai par poser la question de l'économie circulaire et du besoin de l'Europe considérer le recyclage, l'augmentation de la vie utile.
C'est un problème d'énergie puisqu'il n'y avait plus de batterie.
J'attends un peu. Muito obrigado. Estava...
Disais-je donc que je parlais de l'économie circulaire et du besoin de l'Europe tenir compte du recyclage comme un élément de son autonomie stratégique. Parce que si nous parvenons à prolonger le temps de vie utile de ce que nous utilisons et peut-être même lui donner d'autres fonctions, nous pouvons peut-être diminuer le besoin de matières premières extérieures et nous améliorons notre position stratégique au niveau de l'économie verte. Et donc je pose la question de savoir si le programme prévu un élément important qui traite du recyclage, parce que jusqu'à maintenant, l'évolution n'a pas été très grande. Quant aux matières premières, il y a une question très importante, comme a dit Monsieur le Vice-président très correctement, l'Europe dépend de l'extérieur, en particulier dans l'informatique, et nous avons eu même un ministre allemand qui a dit que s'il y avait une rupture de fourniture de ces matières premières, l'industrie automobile allemande s'arrêterait. C'est une sorte de guerre hybride. Il y a des pays qui s'en sont rendus compte. En Israël, par exemple, ils ont créé une industrie forte de semi-conducteurs parce qu'ils ne voulaient pas être dépendants de l'extérieur. Nous, les grands fabricants sont ou bien aux États-Unis ou bien maintenant en Asie. Et c'est un problème que nous n'avons pas résolu, nous n'avons pas trouvé de réponse à ce problème, et c'est un problème de géopolitique mondiale. Les terres rares, par exemple, montrent cela très bien. La Chine et les États-Unis en discutent, et l'Europe, on ne la voit pas dans ce jeu d'échecs, et c'est un problème grave. Et donc, nous comptons sur vous pour avoir la plus grande attention dans le programme Resources EU, pour répondre à ce grand défi. Un autre problème important, qui me semble-t-il, c'est l'asymétrie de la position économique. Si un pays membre de l'Union européenne veut aller en Chine construire une usine, probablement il ne peut pas le faire. Les blocages sont tels, du point de vue formel, que ce n'est pas viable. Mais dans le cas européen, avec grande facilité, nous recevons tout investissement chinois. Il y a des investissements chinois qui sont positifs, qui développent le pays, qui sont les bienvenus. Mais ils doivent aussi contribuer pour incorporer de façon active des membres de l'Union européenne afin qu'il y ait un lien entre tous pour que ce soit un investissement qui soit d'un intérêt pour les deux parties. Si en Europe nous nous limitons à monter des composantes qui viennent de Chine dans des boîtes, c'est un cheval de Troie pour contourner les barrières douanières. Donc il faut une position équilibrée, il faut voir quels sont les investissements que nous faisons et avoir des règles qui soient équivalentes à celles des pays dont nous parlons. J'en reste là en vous souhaitant le plus grand succès dans votre poste parce que de votre poste dépend beaucoup notre avenir.
Monsieur le vice-président, faça favor.
Merci, monsieur le député. Alors, peut-être aller dans votre sens en disant que les matières premières sont en réalité les... guerre sur les matières premières, c'est également une forme de guerre hybride potentielle et nous sommes dans un élément de faiblesse aujourd'hui puisque 100% de nos importations sont décisives pour nos chaînes de production européennes et que depuis les annonces du 9 octobre de la part des Chinois, je suis de plus en plus convaincu que ce sujet apportera et tensions diplomatiques et tensions commerciales, mais aussi insécurité économique pour l'Union européenne. Depuis le 9 octobre, la partie chinoise a décidé de faire deux restrictions d'export de nos matières premières. Une qui consiste à limiter et à réduire les licences d'exportation des matières premières en Europe. Et donc nous avons l'incapacité aujourd'hui de faire des stocks stratégiques, l'incapacité aussi d'avoir des approvisionnements réguliers et des risques de coupures dans nos approvisionnements. La deuxième décision qu'ils ont prise, c'est de nous obliger à demander l'autorisation d'exportation en dehors de l'Union européenne pour des biens qui ont été produits en Europe avec des matières premières chinoises. On est presque dans un moment de coercition économique, si on regarde les choses de manière très factuelle. C'est pour cela que la présidente de la Commission a décidé de me demander un plan d'urgence ressources EU que vous évoquiez. Ce plan, il sera présenté très rapidement au mois de novembre. Il intégrera l'ensemble des contraintes que je viens de vous évoquer, une stratégie de diversification de nos approvisionnements très rapide, une augmentation des budgets et des moyens pour pouvoir produire en Europe une grande partie de nos matières premières, une stratégie de circularité, parce que vous avez entièrement raison, il faut maintenant garder notre matière première en Europe. On a des difficultés à la faire venir sur le territoire européen et par contre on l'exporte systématiquement pour le recyclage. Et donc il nous faut créer des filières et donc avoir aussi des instruments commerciaux qui interdisent l'export de matières premières. C'est un changement total d'attitude européenne et c'est un tabou européen qu'il faut faire tomber, mais qui, je pense, est nécessaire dans la période. Dernier point, nous aurons également à travailler en recherche et développement, puisque la meilleure technologie pour se rendre moins dépendant des matières premières, c'est de ne pas l'utiliser. Et un certain nombre d'entreprises travaillent dorénavant sur des stratégies, des moteurs électriques et des technologies nouvelles qui ne nécessitent pas ces matières premières. Et je pense que là-dessus, l'Europe doit créer ses propres éléments de technologie pour éviter d'être totalement dépendante. Donc vous voyez, les quatre volets seront pris en compte, l'export, la production interne, la circularité, la recherche et le développement sur les nouvelles technologies pour pouvoir produire moins. Mais c'est maintenant vital, puisque quand je regarde ce que les entreprises nous disent, des chaînes d'approvisionnement et des chaînes de production pourraient fermer, et pas dans 6 mois. On parle de quelques semaines. Donc le sujet est là, il faut que l'Europe en prenne conscience et je pense que la présidente, en annonçant un plan qui est en quelque sorte un peu comme un plan repower avec le gaz, à la différence, c'est que le gaz, nous avions les capacités de diversifier très rapidement. La matière première, nous sommes dépendants à presque 100%. Donc nous partons de très très loin. Dernier point sur les conditionnalités d'investissement en Europe. Oui, dans l'accélérateur industriel, je souhaite proposer au Collège des commissaires des conditions d'accès au marché européen pour les entreprises et les investissements étrangers. Nous avons besoin des investissements chinois en Europe. Néanmoins, ils doivent faire fonctionner la chaîne de valeur européenne, nos entreprises européennes, nos TPE et nos PME européennes. Et ce que je vois trop souvent, ce sont des entreprises chinoises qui arrivent, des fois même avec des salariés chinois. Et il y a des cas où plus de 2000 salariés chinois arrivent sur un site pour assembler des composants qui viennent de Chine. Valeur ajoutée zéro pour l'économie européenne, et donc nous devons là-dessus agir le plus rapidement possible et donc mettre des conditions d'investissement, et donc c'est travail des entreprises et travail avec la chaîne de valeur et en même temps gain de croissance avec des composants européens dans la production des entreprises chinoises.
Muito obrigado, senhor vice-presidente.
Merci, monsieur le vice-président. Madame députée Patrícia Almeida du Chega.
Bem-vindo, senhor vice-presidente, tal como o senhor, irei também fazer a minha apresentação em português, a língua materna. Tem sob a sua alçada um conjunto de pastas cruciais para a economia europeia. São cruciais e identificamos, desde logo, a legislação que visa aumentar a produção de tecnologias limpas dentro da União Europeia, o Net Zero Industry Act, porque vão ao encontro da redução e da dependência da Europa em relação à China e aos Estados Unidos. Parece-nos também sobejamente importante a questão da revisão das regras da contratação pública, uma vez que pretendem reforçar a segurança de abastecimento, mas também simplificar regras e reduzir os encargos burocráticos que tanto têm asfixiado as nossas empresas. Para além disso, sabemos também que têm em preparação o European Competitiveness Fund, que é um fundo que pretende centralizar e simplificar o financiamento de inovação, tecnologias estratégicas e competitividade industrial. Parece-nos aqui que a ideia será evitar a fragmentação atual, onde as pequenas e médias empresas enfrentam, de facto, programas dispersos e com requisitos sobejamente e demasiado complexos. A grande questão é que se os países periféricos e as PMEs portuguesas conseguirão ter acesso real ou se o dinheiro acabará efetivamente e sobretudo nas grandes indústrias franco-alemãs em vez de chegarem aos países periféricos como é o caso de Portugal. Depois parece-nos também muito importante a questão do apoio às pequenas e médias empresas e às microempresas com a promessa de simplificação regulatória, melhoria no acesso a financiamento e eventual criação de novas categorias de financiamento para empresas de pequena e média dimensão, as denominadas small mid-caps. Para Portugal, há dois eixos centrais: o peso da regulação europeia sobre as pequenas e médias empresas e as microempresas, que já enfrentam custos elevados com a transição verde e digital, e o acesso equitativo a financiamento dos programas europeus. Neste sentido, Sr. Vice-Presidente, existem algumas questões e aproveitando o facto de estar no Parlamento Português para que nos possa esclarecer e desde logo a primeira pergunta que queria deixar é, tendo em conta os múltiplos indícios de concessões pouco transparentes no setor do lítio em Portugal, que papel vai a Comissão assumir para garantir que no âmbito da sua estratégia industrial e de regulamentação de matérias-primas críticas, os contratos de exploração de lítio incluam obrigatoriamente cláusulas de transparência, de benefício nacional, claro, com valor acrescentado para o emprego e que não sejam objeto de negócios opacos, favorecedores de interesses privados e de capitais externos. Gostava de questionar também o Sr. Vice-Presidente acerca então do acesso ao financiamento para as pequenas e médias empresas. Muitos programas europeus são dominados por grandes multinacionais ou estados com maior capacidade administrativa. Como é que a Comissão vai garantir que pequenas e médias empresas e microempresas portuguesas não ficam para trás no acesso a estes fundos? E se vão simplificar as candidaturas ou reservar cotas específicas para as pequenas e médias empresas de países periféricos. Bruxelas tem vindo também a impor uma avalanche de regulamentos, como a questão da transição verde, a transição digital, etc., que representam custos pesados, muito elevados mesmo, para as nossas pequenas empresas. Que medidas concretas vai tomar para reduzir a carga administrativa e eliminar requisitos desnecessários? Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para responder, tem a palavra ao senhor vice-presidente. Faça favor.
Vous dire d'abord que sur les matières premières critiques, je reprends peut-être cette question, parce que j'ai fini par là la dernière, nous avons développé un label européen qui prend en compte dans les critères de labellisation de l'exploitation minière en Europe, un, la faisabilité à court terme, puisque nos objectifs sont, vous l'avez compris, urgents dans la période, et donc nous avons besoin de labelliser des mines de lithium, de graphite, de cobalt, qui puissent donner des produits rapidement avant 2030. Deux, l'acceptabilité sociale des projets, qui est important pour nous et qui va avec la faisabilité, y compris du projet. Trois, les questions environnementales et sociales, et notamment d'emploi, sont pris en compte. Et également les questions environnementales, je l'ai évoqué, et sociales, puisque vous le savez, dans tous nos téléphones, nous avons des terres rares. Elles sont probablement exploitées et extraites dans des conditions sociales et environnementales qui sont très différentes de celles de l'Europe à travers le monde. Et donc nous avons, nous, un standard qui est quand même très élevé de protection des travailleurs sur ce sujet-là. Tout ce paquet fait que nous déclenchons à partir de la labellisation, nous déclenchons y compris une aide financière. Ça peut être de la subvention, ça peut être de la garantie, et donc nous aidons le projet à émerger. Mais encore faut-il que le projet soit qualifié de faisable avec les critères que je vous évoquais, Madame la députée. Donc tout ça est pris en compte, mais il y a une part de responsabilité nationale dans la capacité à présenter un projet et des critères qui respectent les conditions européennes. Et après, ma responsabilité, c'est de mettre à côté des outils financiers pour pouvoir faire une réalité les projets d'extraction en Europe. Il y a des projets d'extraction, mais il y a aussi des projets de recyclage, et il y a aussi des projets de raffinage. Et je pense que c'est très important de ne pas voir uniquement la mine comme étant le seul élément de notre stratégie, mais à côté, il nous faut une usine aussi de raffinage et de production qui, elle, emploie des gens locaux, apporte de la croissance. Et donc, c'est tout un écosystème qu'il faut bâtir autour de notre indépendance sur les matières premières. Pour ce qui est des financements des entreprises et du fonds de compétitivité, vous l'avez compris, nous voulons fusionner 14 fonds dans un seul fonds. Garder beaucoup de transparence, puisque je suis convaincu que certains pays étaient devenus spécialistes d'un fonds en particulier ou d'une fenêtre en particulier dans l'obtention des fonds européens. Et vous avez totalement raison quand vous citez un certain nombre de grands pays qui ont des dispositifs qui ont beaucoup poussé pour créer un règlement de gouvernance d'un fonds en particulier qui correspond à leurs besoins en particulier et aux entreprises d'une nationalité en particulière. Le fait de rassembler tous les fonds, d'avoir une seule fenêtre, de garantir la transparence du fonds de compétitivité, de donner accès privilégié aux PME et de les accompagner avec un même process en garantissant une forme de simplification est déjà une réponse dans l'effet de répartition géographique équitable que vous évoquez, je pense. Et donc, il ne faut pas voir la simplification et le fonds de compétitivité avec la fusion des 14 comme un risque, mais plutôt comme une opportunité pour les entreprises portugaises. Je le pense sincèrement. Puisque ça garantira la transparence de l'information et une seule fenêtre pour tout le monde. Et plus 14 ou 15 fenêtres différentes avec des gouvernances différentes qui sont des fois orientées pour répondre à des pays en particulier. Voilà. Donc nous avons beaucoup travaillé là-dessus et donc cette fusion est aussi une garantie pour cela.
Merci, Monsieur le Vice-président. Au nom du groupe parlementaire du PS, Monsieur le député Nuno Fazenda. Merci. Merci, Madame la Présidente. Bienvenue, Monsieur le Vice-président de la Commission européenne, Monsieur Stéphane Séjourné, soyez le bienvenu au Portugal. J'aimerais également vous féliciter pour ce que vous nous avez présenté et surtout cette auscultation des différents pays, parce qu'effectivement, cette attitude d'être sur le terrain et d'échanger avec les parlementaires et connaître les besoins des pays est quelque chose qui doit être souligné. Je voudrais souligner également moi-même deux secteurs clés pour l'Europe et pour le Portugal. Le premier, c'est le textile, l'habillement et la confection. C'est un thème dont M. le Vice-président a parlé déjà ici. Ce secteur est très important pour notre pays. Il représente près de 8 000 millions d'euros de chiffre d'affaires et la plus grande partie est exportée vers l'Union européenne. Et il représente 130 000 postes. 130 000 emplois. Donc l'importance sociale pour le pays est évidente. Dans ce cadre, l'Association nationale des industries de la confection et de l'habillement et l'Association des textiles portugais a signé une lettre de demande à la Commission européenne, avec d'autres associations d'ailleurs, pour adopter des mesures concrètes et urgentes contre les plateformes asiatiques de commerce électronique. Ce qu'on appelle les « ultra fast fashion ». Ceci est lié à l'impact que ces plateformes ont dans le commerce européen, perte d'affaires, production européenne, moins de recettes fiscales, plus de chômage et réduction des revenus douaniers et de TVA. La Cour de justice, d'ailleurs, a déjà été alertée. Et donc, ma question est, quelles sont les mesures que la Commission européenne pense appliquer ou développer pour faire face à ce phénomène et protéger les entreprises européennes? Et dans ce cadre, la proposition de la réforme des douanes est peut-être une des réponses. Peut-être que M. le Vice-président pourra nous expliquer un peu mieux quel pourrait être le lien. Le deuxième secteur, qui est également très important pour l'Europe et pour le Portugal, est l'industrie métallo-mécanique. L'industrie métallo au Portugal est le moteur de l'industrie portugaise. Il représente plus de 30% des exportations. C'est le champion national de l'exportation, disons, si on peut l'appeler ainsi. Mais en vérité, ce secteur est menacé actuellement face aux politiques protectionnistes définies par l'Union européenne pour ce qui est de la protection de l'acier. Selon l'Association des industriels métallurgiques et métallomécaniques, cette association nationale a attiré notre attention sur ce problème et l'impact très fort que cette mesure peut avoir, parce que selon l'information que nous avons, la Commission européenne prétend doubler donc les taux dans ce secteur. Et l'impact au niveau de cette industrie sera très fort. C'est le consommateur final européen qui va payer ceci parce que les produits seront plus chers et peut mettre même en cause cette industrie et ce secteur. Pour voir un ordre de grandeur, la sidérurgie européenne, comme vous le savez, représente environ 200 000 millions d'euros de volume d'affaires, de chiffre d'affaires, et l'industrie métallo-mécanique, 20 fois plus. Et dans l'emploi, 300 000 dans la sidérurgie et 13 millions dans l'industrie métallo-mécanique. Et donc, en reprenant vos paroles, cet équilibre entre ouverture et protection est essentiel pour protéger des secteurs importants comme ce secteur métallo-mécanique en Europe et au Portugal. Et donc, nous aimerions savoir quel est votre point de vue par rapport à cela. Merci beaucoup.
Obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Vice-Presidente.
Merci. Vous avez la parole, Monsieur le Vice-président.
Président, Monsieur le député, vous posez exactement le, très bien la problématique sur le textile qui en réalité est très concurrencé par la Chine et notamment les petits colis qui arrivent. Pour vous donner une idée, nous sommes à peu près à plus de 4 milliards de petits colis qui sont arrivés sur le territoire européen. Quand je parle de petits colis, je parle de colis qui sont censés être à moins de 150 euros et donc rentrer dans l'exemption des droits de douane européens. Je dis censé puisque en faisant des contrôles, une grande partie de ces petits colis sont supérieurs à 150 euros, mais déclarés comme en dessous. Ça nous pose le même problème que j'évoquais en introduction de contrôle de nos douanes. La projection pour 2026, c'est 6 milliards de petits colis qui vont arriver sur le territoire européen. Vous voyez que le phénomène est exponentiel et vient impacter totalement des industries comme le textile en Europe et notamment au Portugal. Je pense que si nous arrivons collectivement à supprimer l'exemption à 150 euros, taxer éventuellement les petits colis avec forfaitaire, la proposition de la Commission étant de regarder autour de 2 ou 3 euros pour pouvoir créer une incentive à ne pas acheter ces produits et à les surenchérir, produits qui en plus sont produits dans des conditions sociales et environnementales contraires aux droits de l'Union européenne. Et donc, ces produits n'ont rien à faire, en plus, en Europe. Tout ça pour vous dire que nous poussons très fortement pour durcir la réglementation, appliquer la réglementation, tout simplement, aussi, et encadrer les plateformes d'achat. Je pense que ça fait partie des discussions globales que nous avons aujourd'hui avec les Chinois dans le cadre de nos relations commerciales. Je pense droits de douane sur les voitures, matières premières, arrivée massive de petits colis en Europe, conditions d'investissement sur le territoire européen que j'évoquais pour les investissements chinois. Tous ces sujets doivent être traités ensemble et pas séparément. Et donc c'est notre objectif de porter ce point-là le plus rapidement possible. Donc oui, nous activons les choses et plus les États membres au Conseil européen iront vite sur la réforme des douanes, plus vite la Commission pourra mettre en application ses propositions. Tout ce que je viens de vous évoquer, ce sont des propositions de la Commission européenne, de la part de mes services et de moi-même. Mais nous attendons la validation et du Parlement européen et du Conseil européen pour pouvoir appliquer ces propositions. Deuxième point sur l'industrie de la métallurgie en Europe et métallomécanique. Vous avez aussi un point. Nous essayons de trouver un équilibre entre garder nos industries sidérurgiques en Europe, puisqu'ils participent de la souveraineté européenne. On ne peut pas décemment laisser fermer toutes les aciéries européennes. Ça fait partie de la souveraineté européenne et il n'y a pas de secteur de la défense sans acier, il n'y aura pas de secteur de l'automobile sans acier et il n'y aura pas non plus de futur pour les industries métallométalliques en Europe s'il n'y a pas d'acier non plus européen. Donc notre premier objectif était déjà de sauvegarder nos outils de production en Europe. Si nous ne faisons rien et si nous ne faisions rien dans cette période, il est presque évident qu'en 5 ans, on aurait divisé par plus que 2 les aciéries européennes. Néanmoins, je suis conscient des risques sur le prix, des risques de disponibilité et des risques aussi en termes d'exportation que ça peut provoquer pour les autres industries. C'est pourquoi nous avons quand même gardé des quotas d'importation d'acier qui correspondent à peu près 18 millions de tonnes en Europe, et que c'est très important pour nous de travailler avec les États membres pour savoir quels sont les pays sur lesquels nous souhaitons garder des très bonnes relations, garder aussi des importations d'acier et des coopérations économiques dans le cadre de d'autres industries, et pour éviter les retaliation, donc les j'ai perdu le mot en français, mais les traducteurs le diront en portugais, de la part de nos compétiteurs et de nos partenaires économiques. Donc oui, j'ai lu un certain nombre de tribunes sur ce sujet ici au Portugal, et donc on va le prendre en compte dans notre réflexion pour éviter. Néanmoins, je vous le dis, le secteur de l'acier est un secteur très sensible. Les surcapacités chinoises arrivant sur le territoire européen étaient incontrôlables. Et en quelques années, nous aurions perdu totalement toute notre industrie de l'acier en Europe. Conscient aussi des impacts économiques sur les industries qui sont liées à tout cela, mais... ouais. C'est l'équilibre que je souhaite trouver et que vous avez bien compris dans mon introduction.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, Sr.
Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Député, Monsieur le Vice-Président de la Commission. C'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue. Et Monsieur les députés, en tant que vice-président de la Commission au Parlement européen, à laquelle nous participons, je vous souhaite encore doublement la bienvenue. Vous avez effectivement un rôle historique, Monsieur le vice-président, parce que il y a des défis face à vous que l'Europe avait déjà devant elle depuis des années, mais dont elle a compris l'importance soudain parce que le contexte géopolitique a changé. Et l'un des points qui m'a le plus impressionné dans le rapport de la Commission sur les réformes proposées, c'est un graphique qui n'est pas très populaire, pas très connu, mais qui est l'un des plus significatifs, qui représente quelles sont les plus grandes entreprises qui ont le plus de capitalisation de marché ces dernières années. Et dans ce graphique, nous constatons qu'aux États-Unis, cet ensemble d'entreprises change au long du temps, alors qu'en Europe, ce sont pratiquement toujours les mêmes, avec quelques variations, mais en gros, ces dernières 20 années, c'est surtout l'automobile, l'industrie chimique. Donc l'Europe semble être bloquée dans un paradigme qui la rendait compétitive dans les années 80 et 90, mais après les années 2000, a complètement changé. Et maintenant, elle n'est plus concurrentielle. Et dans le rapport de Draghi, ces causes ont été soulignées et bien expliquées. Et vous avez maintenant le rôle d'essayer de dépasser ce retard chronique de l'Europe pour relancer l'économie européenne. Et c'est à ce sujet que j'aimerais vous poser quelques questions et savoir si effectivement nous allons parvenir à le faire. C'est peut-être la question la plus importante. Est-ce que nous allons y arriver? D'abord, l'élimination des barrières dans le marché intérieur, qui est un des plus grands problèmes que nous avons, barrières tarifaires et non tarifaires. Mais très souvent, ce sont les États membres eux-mêmes qui présentent ces barrières. Il faut un débat national pour supprimer ces barrières, et notre parti a insisté pour la suppression de ces barrières qui sont injustes face à d'autres États membres. La création de fonds de financement pour les PME, en particulier une union de investissement. C'est incompréhensible que ce débat dure depuis des années, cette question du marché des capitaux. On en parle depuis 15 ans, peut-être. Il faut que ça avance, parce que si ça n'avance pas, nous allons perdre notre crédibilité par rapport à la volonté de dépasser ces problèmes. Le changement des régimes pour les entreprises est également fondamental. C'est également fondamental de réduire la réglementation excessive placée au long du temps en pensant que ça ne créerait pas trop de problèmes aux entreprises. Quand nous prenons les règles une par une, ça semble simple, mais lorsque nous rassemblons toutes ces règles, il faut créer dans les entreprises des départements, des services entiers de compliance. Et ce n'est pas possible, parce qu'il y a des pays en Europe qui résistent. Et au Parlement européen, il y a 15 jours, nous avons vu cela, lorsque le résultat a été négatif par rapport à la mesure de simplification proposée. Parce que c'est un signe très important qu'il faut donner par rapport aux entreprises européennes. Donc, par rapport à vos objectifs qui se trouvent dans votre carte de lettre de mission, pardon, qui est de simplifier le règlement dans ces entreprises et de réduire de 25 et 35%, comme vous le dites, est-ce que vous allez y parvenir? Et si vous me permettez, deux autres questions sur les fonds. Pensez-vous que le développement de ces fonds peut devenir un problème pour l'économie, un défi pour l'économie, parce qu'après, il y a des entreprises qui fonctionnent autour de ces fonds et vivent de la chasse aux fonds européens, ce qui perpétue leur manque de compétitivité, au fond. Et finalement, la réforme de la des appels d'offres européens, j'espère que les propositions soient pour des secteurs très stratégiques, parce que si nous généralisons des critères de ce type, les États membres auront des coûts beaucoup plus élevés et des industries nationales qui seront très dépendantes. Ça a déjà arrivé aux États-Unis, nous voulons éviter que cela arrive ici. Merci. Monsieur le vice-président.
Passe à favor. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, on me dit qu'il faut que j'accélère mes réponses, mais je vais essayer qu'elles soient aussi précises. D'abord, sur les barrières tarifaires, je l'ai dit, c'est une responsabilité collective. Et aujourd'hui, la question des barrières réglementaires, c'est à peu près l'équivalent de 50% de droits de douane entre nous sur les biens et à peu près 100% de droits de douane sur les services. Et donc si je factorise ces éléments-là, ça devient un problème très important à régler et un facteur de compétitivité très puissant pour les entreprises européennes. C'est une question de méthode, et donc j'ai changé la méthode. Nous avons identifié les 10 barrières les plus importantes économiquement et je l'ai élevé au niveau politique. Et donc le sujet maintenant n'est plus traité par des administrations dans un sous-bureau, mais au Conseil européen avec les ministres de l'économie et de l'industrie et de l'économie et des finances. Donc je pense que c'est une meilleure manière d'avoir des résultats sur ce sujet. Sur les marchés de capitaux, ça arrive puisque la proposition de supervision sera devant le collège des commissaires dès le mois de décembre, donc avant les vacances de Noël pour tout le monde. Et j'espère juste que cette proposition ne sera pas morte au mois de janvier. Et donc nous travaillons au mois de novembre pour justement travailler avec l'ensemble des États membres pour que, arrivée au Conseil, cette proposition ne soit pas mort-née. Donc c'est pour ça que ça prend un tout petit peu de temps. Nous savons ce que nous voulons faire. Nous voulons une supervision européenne des marchés de capitaux. Elle est bonne pour tout le monde. Certains pays s'y opposent très fortement encore. Il faut donner des garanties et encore convaincre politiquement. Et on prend encore un mois avec la commissaire Albuquerque, que vous connaissez bien ici, pour pouvoir convaincre l'ensemble des États membres. Sur la simplification, c'est plus une question maintenant politique que d'ambition de la Commission. Et donc il faut trouver des majorités au Parlement européen pour éviter l'épisode que vous avez mentionné vous-même. Cet épisode, il est déplorable, mais il démontre quelque chose. C'est que au moment où la Commission présente ses omnibus de simplification, j'entends les critiques sur le fait que c'est pas assez ambitieux, que ça va pas assez loin. Mais néanmoins, nous essayons de factoriser dans notre réflexion la faisabilité politique au Parlement. Et donc, ce sont déjà des compromis que nous faisons entre nous à la Commission pour pouvoir faire passer les textes. Et donc maintenant, l'urgence, c'est de pouvoir faire passer les textes. Et donc, je compte également sur l'ensemble des groupes ici au Portugal pour pouvoir passer les messages dans les groupes politiques au Parlement européen. Sur les fonds et sur la compétitivité, il y a un instrument que je souhaite privilégier dans le fonds de compétitivité, c'est la garantie. Et donc, avec d'abord parce que la garantie financière vous permet d'utiliser 1 euro d'argent public et d'avoir à peu près entre 15 et 20 euros d'argent privé. Et donc, c'est la meilleure utilisation de l'argent public, la garantie, plus que de la subvention ou que de l'aide à la production ou quoi que ce soit. Donc, dans le fonds de compétitivité, il nous faut utiliser l'instrument que beaucoup d'entreprises connaissent, qui est InvestEU, qui est un outil de garantie avec des banques publiques qui permet de viabiliser des projets et surtout de déclencher de l'investissement privé. Parce qu'on a besoin d'investissement privé. Et quand Draghi nous dit qu'il nous faut 800 à 1000 milliards d'investissements, c'est surtout de l'investissement privé qu'il nous faut. Donc le budget européen et le fonds de compétitivité doit servir à ça et doit être privilégié. Là, je compte également sur les parlementaires européens de vos groupes respectifs pour pouvoir pousser le fait d'avoir de l'investissement privé et donc d'utiliser plutôt de la garantie que de la subvention.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente.
Merci, Monsieur le Vice-Président. Dernier intervenant, Monsieur le député du parti JPP, député Philippe Sousa. 2 minutes. Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le Vice-Président Stéphane Séjourné, permettez-moi avant tout remercier votre présence et votre disponibilité pour parler avec les parlementaires portugais et vous dire que le renforcement de la prospérité et de la stratégie européenne est certainement l'un des grands défis de notre temps. Et votre portefeuille est essentiel pour donner forme à ce thème qui est important pour tous les États membres. J'aimerais souligner une question qui me semble essentielle, qui est le besoin de s'assurer que cette stratégie est véritablement inclusive et représente encore plus de cohésion. Nous savons que l'Europe de la prospérité ne peut pas être une Europe d'asymétrie, et dans ce contexte, les régions ultra-périphériques comme Madère et les Açores sont face à des conditions difficiles, en particulier les transports, l'énergie, la logistique et même la réduction des marchés, et qui limitent donc la compétitivité des entreprises locales malgré leur très grand potentiel d'innovation et de durabilité. Et donc, Monsieur le Vice-Président, dans ce contexte, je vous poserai 2 questions, partant du principe que la prospérité européenne n'est durable que si elle est partagée et équilibrée. Comment la Commission pense-t-elle renforcer les instruments d'appui à l'industrialisation et à la transition énergétique dans ces régions ultra-périphériques? Première question. Et par ailleurs, comment pensez-vous garantir que ces régions pourront participer entièrement dans les chaînes de valeur européennes en bénéficiant des possibilités créées par la nouvelle politique industrielle? Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur le vice-président, s'il vous plaît.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, j'aurais peut-être quelque chose en partage d'un point de vue de la culture politique entre les Portugais et le commissaire européen, enfin le vice-président de la Commission européenne français que je suis. C'est le réflexe des régions ultra-périphériques. Moi-même, dans mes autres fonctions, que ce soit au gouvernement français ou en tant que président de groupe au Parlement européen, j'ai souvent rappelé à mes collègues européens ce réflexe important, cette richesse aussi que constituent nos régions ultra-périphériques, et souvent le fait de ne pas les traiter de la même manière était aussi une force, et donc nous sommes en train d'en réfléchir plus globalement à une forme d'omnibus de simplification également pour pouvoir traiter différemment des gens dans une situation différente. Je pense qu'une partie de l'acquis européen en termes de droit européen a souvent ignoré ou oublié la spécificité des régions ultra-périphériques. Donc le premier travail que nous devons faire collectivement, c'est de reprendre l'acquis européen et éventuellement de proposer un omnibus de simplification qui vient régler un certain nombre de problèmes. Le deuxième point que vous évoquez, ce sont les financements et l'intégration dans les chaînes de valeur européennes. Sur le financement, vous avez compris que le changement de logique de la Commission sur notamment la cohésion et puis les fonds et les enveloppes, ce qu'on appelle les enveloppes nationales, qui ne font plus apparaître des sous-fenêtres comme c'était le cas avant et qui donnent la responsabilité aux États membres de diviser et de faire apparaître les fenêtres eux-mêmes. C'est un débat qu'on a, ce n'est pour être totalement honnête avec vous, pas ma responsabilité au Collège des commissaires, mais néanmoins, je souhaite qu'on puisse avoir quand même une forme de transparence sur ce qui pourrait être donné, ou en tout cas alloué, ou qui pourrait correspondre aux régions ultra-périphériques dans le budget européen. On y travaille sur cette visibilité. Et vous aurez probablement, et je vous invite y compris à auditionner mes collègues sur le budget ou sur la cohésion, et qui seront ravis également d'avoir un échange avec vous sur ce sujet-là. Dernier point, la question des régions ultra-périphériques ramène également pour nous de comment on fait fonctionner notre industrie et nos chaînes de valeur là-bas, vous l'avez dit. Et nous devons avoir aussi une stratégie régionale pour ces régions ultra-périphériques, c'est-à-dire les intégrer dans leur écosystème économique régional, y compris pour des questions de coût de la vie là-bas et d'importation d'un certain nombre de matières. Et pour ça, c'est à la fois de la compétence nationale et donc du Portugal, et en même temps nous pourrons vous proposer un certain nombre d'outils à la Commission pour aller dans ce sens.
Alors finalement, vous n'étiez pas le dernier. Monsieur le député Rui Tavares, au nom du groupe parlementaire du Livre, a la parole. S'il vous plaît, monsieur Tavares. Merci, madame la présidente. J'aimerais donc vous demander, dans l'ensemble de rapports qui a aidé ces dernières années, l'Union européenne à se projeter vers l'avenir, le rapport Draghi, Ignisto et Letta, j'aimerais me centrer sur une question soulignée par le rapport Letta, qui est la cinquième liberté, la liberté d'information, de recherche, qui est implicite dans les objectifs de l'Union européenne, article 3 du traité, mais qui doit être mise en pratique et qui, à mon avis, rend les choses très difficiles pour l'Europe compétitive par rapport aux autres blocs, mais également au niveau de la préparation pour l'avenir. Je donnerai deux exemples. La plus grande partie de la recherche financée par des institutions européennes, soit au niveau de l'Union ou au niveau national, le Centre de recherche européen, les universités, la Fondation pour la technologie, etc. Quand c'est défini, ça se finit dans des étagères de universités et repris par des entreprises américaines ou britanniques comme Elsevier ou d'autres. Et ça crée un problème pour des États membres qui ont moins d'argent pour le financement et les centres de recherche n'ont pas la capacité de se payer, de payer les abonnements et les conditions injustes qui portent préjudice aux chercheurs et universitaires européens. Par ailleurs, l'Union européenne produit un ensemble énorme de données qui est pratiquement utilisé de façon gratuite par des grandes entreprises de technologie. Par exemple, la traduction simultanée des institutions européennes qui a été utilisée par Google ou d'autres pour leur projet d'intelligence artificielle et d'interprétation simultanée. Mais il y en a d'autres des cas, les musées, les bibliothèques, les monuments, qui vont être numérisés d'un moment à l'autre. Mais ça doit être un projet de l'Union, et ça doit être public, et ça doit être utilisé de façon contrôlée par l'Union européenne. Et quelle est l'intention de la Commission européenne pour promouvoir la cinquième liberté dont M. Letta parle dans son rapport? Merci. Vous avez la parole, Monsieur le Vice-président.
Merci, Madame la Présidente. Bon, pour cette dernière question, sujet imminemment intéressant et qui pose, vous l'avez très bien posé d'ailleurs comme problématique, la question à la fois de notre recherche, du lien entre l'industrie et la recherche. Nous n'avons pas trop de problèmes de recherche fondamentale en Europe. Nos labos fonctionnent très bien, nos labos publics, des recherches et des ruptures souvent viennent d'Europe quand des nouveautés sont trouvées, quand nos scientifiques mettent des recherches scientifiques publiquement. Ce sont souvent d'ailleurs des recherches européennes, mais nous avons un problème au moment de passer l'étape de la recherche à l'application et à la recherche appliquée où une grande partie de notre industrie ne prend pas cette recherche, mais va être exploitée et le scale-up se fait souvent aux États-Unis. Le paradoxe du sujet, c'est qu'il se fait aux États-Unis avec de l'argent européen. Et donc, nous exportons aux États-Unis notre idée et nous exportons aux États-Unis notre capital. Et donc, pour financer aux États-Unis la croissance des entreprises américaines. Je n'ai rien contre les Américains, au contraire, mais on n'est pas obligé non plus d'être totalement naïf. Et donc, ce sujet est très important. C'est pour ça que nous avons voulu que un Horizon Europe, le programme de recherche européen, soit doublé. Il va passer de 100 milliards d'euros à 200 milliards d'euros. Parce que nous souhaitons garder les standards de recherche scientifique fondamentale et recherche appliquée les plus hauts possibles. On aura le même débat pour savoir d'un point de vue géographique où tout ça va. Je souhaite qu'on puisse y compris permettre d'avoir des éléments de cohésion dans Horizon qui permettent d'avoir une forme de répartition géographique qui soit équitable. Mais par contre, un des enjeux fondamentaux, un enjeu fondamental pour moi, l'enjeu fondamental étant de garantir aussi que nos idées, nos résultats de recherche soient opérationnalisés et industrialisés en Europe. Pour ce fait-là, il y a un sujet, c'est d'abord le marché des capitaux, et donc la première étape va être la supervision dès le mois de décembre au Collège des commissaires. Et donc pour ça, il faut garder le capital en Europe. Et il y a un sujet culturel des entreprises aussi, de pouvoir intégrer dans leur chaîne de production ou dans leur recherche et de développement, la partie de recherche appliquée qui doit nous permettre de garder en productivité également des standards assez élevés. L'Europe va perdre à peu près 2 millions de travailleurs par an à partir des années 2035-2040. Pour ça, il y a deux options pour garder notre niveau de vie. C'est soit gagner en productivité avec également notre stratégie d'investissement, de recherche et de développement derrière, ou faire venir des millions de travailleurs en Europe. Je pense que la version millions de travailleurs en Europe n'est pas très populaire aujourd'hui sur le continent européen. Donc il y a une option qui doit être creusée, c'est notre niveau de productivité. Et pour garder notre niveau de productivité et notre niveau de vie en Europe, on va avoir besoin de creuser sur ces sujets-là. Pour le reste, c'est un travail que je fais avec Mme Inzatou et la commissaire à la recherche également, pour pouvoir approfondir tous ces sujets, l'objectif étant la prospérité européenne à la base. Et donc nous proposons toute une stratégie pour garder nos compétences, faire des formations et avoir des éléments budgétaires dans la formation, et garder notre recherche et notre développement en Europe pour la partie industrielle. Je m'arrête là parce que je crois qu'on me fait des gros yeux, Madame la Présidente, et j'ai des rendez-vous importants également avec le gouvernement portugais sur tous ces sujets-là. Je vous remercie beaucoup pour vos questions, et merci beaucoup de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer devant la représentation nationale portugaise.
Muito obrigada, Senhor Vice-Presidente.
Merci, Monsieur le Vice-Président. C'était un plaisir de vous avoir ici dans notre commission. C'est un échange très utile. Je sais que votre temps est compté et l'importance de votre portefeuille a été mise en évidence par la participation de tous les groupes parlementaires et toutes les questions qui ont été posées. Et je conclue avec les mots suivants. Prospérité, Monsieur le Vice-Président. C'est vraiment de cela que l'Europe a besoin. Prospérité pour être plus développée, plus engagée dans le projet européen et plus heureux. J'ai ici un petit souvenir pour vous.